François Hellebrun, bonsoir.
Bonsoir Pierre, et très bonne année à vous et à tous vos auditeurs.
Bonne année à vous également. Vous êtes professeur associé à Sciences Po, et ce soir nous allons évoquer avec vous le triste 10e anniversaire des attentats de janvier 2015. Nous allons également évoquer la mort de Jean-Marie Le Pen, ces deux événements venant se télescoper de façon un peu incroyable. Le 7 janvier 2015, l'attentat contre Charlie Hebdo, les frères Kouachi pénètrent dans le bâtiment abritant les locaux du journal. Armés de fusils d'assaut, ils assassinent 12 personnes, dont 8 membres de la rédaction. Le 8 janvier 2015, jour pour jour aujourd'hui, la veille de l'attentat de l'hypercachère de la Porte de Vincennes, une jeune policière de la ville de Montrouge dans les Hauts-de-Seine, Clarissa Jean-Philippe, est tuée par Amedy Coulibaly, un agent municipal, est également blessé. Et le 9 janvier 2015, la prise d'otage du magasin hypercachère de la Porte de Vincennes à Paris est une attaque terroriste, islamiste et antisémite. Et c'est le dernier des attentats de début janvier 2015. Les manifestations des 10 et 11 janvier 2015, également appelées marches républicaines, sont un ensemble de rassemblements qui se déroulent sur le territoire français en réaction aux attentats djihadistes. Le nombre total de manifestants à travers la France est estimé par le ministère de l'Intérieur à plus de 4 millions de personnes sur ces deux journées. François Hellebrun, 10 ans plus tard, que reste-t-il de cet élan de résistance des Français face au terrorisme ?
Vous avez raison de replacer tout ça dans le contexte. Je pense qu'on peut tirer à la fois un bilan positif et un bilan négatif. Le bilan positif, c'est la première chose, c'est que Charlie est toujours là. Charlie vit, Charlie marche. Les équipes courageuses, les survivants courageux de Charlie sont au travail. Ils sont au travail dans des conditions sécuritaires absolument incroyables. Ils sont tous protégés personnellement par plusieurs policiers. Ils travaillent dans un local dont l'adresse est secrète et très sécurisée. Mais le journal paraît toutes les semaines et cette liberté d'expression, ce ton, cet appel au blasphème, à la laïcité, à la liberté d'expression survit. Et donc, que Charlie ait survécu à ce massacre terroriste islamiste monstrueux est une très bonne chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme vous l'avez rappelé, dans la même succession, les mêmes cibles étaient, on a ciblé les humoristes de Charlie, on a aussi ciblé les juifs, comme souvent on cible les juifs un peu en premier. Et le terrorisme islamiste a tué les juifs en premier, les humoristes, les policiers aussi. Et c'est pour ça que le 11 janvier, comme vous l'avez rappelé, nous étions beaucoup à défiler avec la pancarte « Nous sommes Charlie, nous sommes juifs, nous sommes flics, vive la République ». Et c'était important d'avoir ces trois messages, mais après, comme toujours, Charlie était un peu les éclaireurs, les juifs aussi un peu les éclaireurs, mais c'est la société française en entier qui a été frappée par le terrorisme islamique, et notamment les attentats du Bataclan dans la même année. Donc, pour les juifs, ce qui est terrible, c'est que ces attentats ont été horribles, et dans les années qui ont écoulé, il y a eu un triumvirat, François Hollande, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, à qui il faut rendre hommage, président de la République, Premier ministre et ministre de l'Intérieur à l'époque, qui ont assuré la protection des lieux juifs, on s'en rappelle, avec l'armée. Ça a duré pendant au moins 18 mois, des soldats déployés un peu partout. Et il y avait un dispositif très important de 10 000 personnes, et les actes antisémites, on y reviendra dans le contexte d'aujourd'hui, les actes antisémites ont reculé vraiment pour la première fois en France, on est tombé à 200, 300 actes par an, parce que les juifs étaient protégés. Donc c'était triste, la protection fonctionne, et il faut rendre hommage à ces trois hommes politiques qui ont eu le courage d'assurer cette protection dans un contexte très dur, justement de menaces terroristes très importantes, avec des personnalités juives de tout premier plan qui étaient visées personnellement pour être abattues, beaucoup étaient sous protection policière, et aussi beaucoup de lieux juifs, synagogues, écoles, étaient visés, comme dans les attentats de janvier 2015. Le bilan, c'est que cette protection-là, cette solidarité-là était bien, mais depuis le 7 octobre 2023, hélas, avec l'attaque terroriste antisémite du Hamas en Israël, l'antisémitisme a flambé par mimétisme en France, et on est revenu à une situation pire que ce qu'on connaissait il y a 10 ans. Donc le bilan, il est contrasté, c'est-à-dire que la liberté d'expression est toujours là, la liberté de blasphémer... Le discours pour la laïcité fonctionne, mais de l'autre côté, l'antisémitisme a continué de progresser. De nombreux partis politiques, notamment à l'extrême gauche, continue de soutenir un islam radical et notamment la France insoumise qui soutient par ses déclarations le Hamas, le Hezbollah et même les frères musulmans en France. Et donc c'est comme toujours, c'est pas blanc ou c'est pas noir, mais on est dans la zone grise où il faut se battre, continuer à se battre pour les valeurs de Charlie, de la République, de la laïcité, de la place des Juifs dans la France. Mais ce combat n'est pas gagné parce qu'il y a des gens qui sont objectivement hostiles ou complices de cette hostilité et de cette violence.
Alors, autre événement survenu hier, c'est la mort de Jean-Marie Le Pen qui aura marqué la vie politique française par ses déclarations antisémites et racistes et par la création du Front National en 1972. On a vu d'ailleurs hier soir plusieurs rassemblements, notamment à Paris, pour se féliciter de son décès. Moi, j'ai envie de vous poser cette question. Désormais, Marine Le Pen est seule aux commandes ?
Oui, complètement. Moi, déjà, elle avait fait quelque chose de très fort. C'était un peu Brutus contre César. Elle avait fait un parricide en 2015. Mm-hmm. Elle avait viré son père, quasiment manu militari, de la présidence d'honneur du Front National. C'était son nom encore à l'époque. Elle a essayé de faire le nettoyage pour tourner la page. Bon, elle n'a pas complètement tourné la page, ça c'est une autre chose. Mais revenons à Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, c'est effectivement une page de l'histoire de France qui se tourne, puisque c'est vraiment depuis 70 ans, quoi, depuis son élection comme député en 56 dans les listes poujadistes, c'est le symbole de l'extrême droite française. Et c'est un symbole qui est resté fort, qui est resté prégnant. Et surtout une extrême droite, vous l'avez dit, antisémite et raciste, mais une extrême droite avant tout antisémite. C'est-à-dire que dans les obsessions de Jean-Marie Le Pen, il y avait évidemment beaucoup de xénophobie, voire de racisme, mais ce n'était pas la pointe de son combat. Son combat, ça a toujours été, il a été d'une fidélité totale, l'antisémitisme, et puis à partir des années 80, le négationnisme. Et je souhaiterais revenir sur ces deux choses. Alors l'antisémitisme, la première action militante de Jean-Marie Le Pen, c'est 1948, c'est distribuer un journal pétainiste. Il faut être fort quand même en 48 pour distribuer un journal pétainiste. Il milite dans pas mal d'associations d'extrême droite étudiante, et surtout à partir des années 60, il se rapproche de toute l'extrême droite fasciste et nazie française, notamment François Duprat qui a créé l'Ordre Nouveau, mais aussi des anciens miliciens, des anciens Waffen-SS comme Roland Brino. Et c'est avec cet attelage de l'extrême droite la plus dure, la plus fascinée par l'Allemagne nazie, qui va créer en 1972 le Front National. Et moi, je me rappelle que jeune militant dans les années, à la fin des années 70, militant juif évidemment, j'avais vu des disques édités par une maison de disques dirigée Jean-Marie Le Pen avec un de ses amis qui était un nazi qui s'appelait Jean-Gilles Maniarakis, qui rééditait des chants nazis de l'armée allemande. Ouais. Et donc, c'était vraiment, vraiment ça son. Et puis, le point où ça, qui a marqué beaucoup de gens, c'est sa phrase négationniste sur les chambres à gaz. Et qui était ou disait que c'était un point des détails de l'histoire, mais ce qui est bizarre, c'est qu'on retient pas complètement ce qu'il dit. Et pour cette émission, j'ai relu ce qu'il a déclaré en 1987. Il a dit :« Je suis passionné par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale », et c'est vrai. C'est quelqu'un de très intellectuel, très cultivé, un très bon historien. Et il déclare quand même :« Je me pose un certain nombre de questions. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir. » Donc déjà, il introduit le doute. Mmh. Je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et face à la réaction hostile du journaliste, il répond « Non, la question qui a été posée, c'est de savoir comment ces gens ont été tués ou non. » Et c'est là que c'est terrible. C'est comment ces gens, d'abord, il ne dit pas les Juifs,
ouais, c'est ça.
Parce qu'il a du mal à dire les Juifs, et ils disent « ont été tués ou non ». Donc il y a la possibilité, il y a un doute. Il introduit le doute. Et comme il introduit le doute en disant « je n'ai pas pu moi-même en voir », qui était la grande thématique de Forisson et Roch, les pères du négationnisme en France à l'époque, c'était les chambres à gaz, on n'en a pas, on n'en voit pas, parce qu'évidemment, elles ont été détruites par les nazis à Treblinka, à Sobibor, quand ils ont rasé des camps, et même à Auschwitz, ils ont fait sauter les chambres à gaz à la fin. Mais par contre, on le sait depuis, on a les plans, on a le système de fonctionnement, et puis évidemment, on a les milliers de témoignages de survivants qui démontre la réalité de cette machine de mise à mort. Et ce qui est très frappant, c'est qu'il a déclaré ça en 1987, il a été condamné d'ailleurs pour contestation de crimes contre l'humanité par la justice, mais il l'a réitéré en 97, en 2008, en 2009, et de manière d'ailleurs de plus en plus accélérée. Et ça a été un des principaux soutiens du négationnisme en France, et d'ailleurs, son amitié avec Dieudonné et Soral s'est construite autour de ce lien avec Forisson, et donc c'est quand même un des hommes politiques qui a soutenu le négationnisme, l'antisémitisme qui disparaît, et voilà ce qui, en tant que Français juif, patriote, je me rappellerai de ce personnage qui a marqué négativement l'histoire de la France.
Alors, on parlait des attentats de 2015, il y a 10 ans jour pour jour, la mort de Jean-Marie Le Pen, avec un lien entre les deux, un lien, pas seulement, mais quand même un lien important, c'est l'antisémitisme. Et le nombre de faits d'antisémitisme recensés en France en 2024 devrait approcher celui comptabilisé dans l'année 2023. Dans l'année 2023, ça allait plutôt bien jusqu'au 7 octobre. Et le 7 octobre 2023, les attentats et les pogroms du Hamas dans le sud d'Israël. Et là, c'est l'explosion, plus de 1000 actes antisémites. Et Aurore Berger, qui est la ministre de la lutte contre les discriminations, déclare « L'augmentation des faits d'antisémitisme est assez spectaculaire. Aujourd'hui, les chiffres que j'ai au 30 novembre 2024 pardon, étaient à peu près de 1500 faits d'antisémitisme. Cela devrait être... confirmé par le ministère de l'Intérieur.
Oui, c'est absolument épouvantable. Il faut mettre ces chiffres en perspective, comme toujours avec les chiffres. Dans les années 90, on avait 80 actes antisémites par an. 80. Dans les années 2000, on est monté, les pics, les plus forts chiffres ont été à 800 actes antisémites par an, et dans les périodes creuses, ça descendait à 400. Donc on franchit un plateau. Dans les années 2010, justement, et notamment 2014-2015, on est monté à nouveau vers 800-900, mais on n'avait pratiquement jamais dépassé les 1000 actes antisémites. Là, comme vous l'avez rappelé, en 2023, on était à plus de 1600, et en 2024, on va sûrement, comme l'a dit Aurore Berger, dépasser à nouveau les 1500, voire les 1600. Ce qui veut dire que l'antisémitisme à chaque fois ne régresse pas, mais monte de palier, monte d'un cran. Et c'est absolument terrible, et on le sait, et à juste titre, Aurore Berger, qui a toujours été très courageuse et très lucide dans ce combat-là, et je suis très heureux qu'elle soit de nouveau ministre sur ces sujets, ce qui n'était pas le cas dans le gouvernement Barnier, a bien précisé que ce qui était terrible, c'est que ce n'était pas juste des graffitis ou des atteintes à des immeubles, c'est surtout des atteintes à des personnes, à des juifs, dans la cité, sous forme d'insultes, et de plus en plus sous forme d'agressions physiques. Et donc la dangerosité de l'antisémitisme est de plus en plus forte, les actes sont de plus en plus nombreux et de plus en plus fortes. Et l'autre point qu'elle a souligné dans la déclaration qu'elle a faite le 5 janvier, c'est aussi que, à juste titre, et d'ailleurs j'ai écrit une tribune à ce sujet dans l'actualité juive il y a 10 jours, c'est qu'un des points de focalisation qui n'était pas le cas tellement avant, ils sont devenus les universités et les grandes écoles, où la propagande de haine anti-Israël déborde sur la discrimination, des attaques, des agressions, des insultes contre les étudiants juifs, ou même les étudiants pas forcément juifs, mais qui expriment une condamnation du Hamas, une solidarité avec Israël. Et donc l'antisémitisme est en train de gangréner l'université. Et il faut être très vigilant et très, très ferme sur ces sujets-là, ce qui, heureusement, la plupart des présidents d'université le sont. Mais effectivement, on a passé des seuils, on a passé des stades, et pour remettre en perspective par rapport à ce triste anniversaire des 10 ans des massacres de Charlie, de Montrouge et de l'Hypercacher, ben, l'islamisme continue de progresser et les complices de l'islamisme sont de plus en plus vocaux, et on la voit depuis les attaques du Hamas du 7 octobre 23. Il y a des complices en France, il y a des gens qui ont une fascination pour le Hamas et le terrorisme islamique, et il y a des gens qui sont naïvement complices ou lucidement complices et qui sont dangereux pour la République, mais qui sont dangereux aussi pour les Français juifs dans la sécurité au quotidien, et c'est absolument scandaleux. J'espère que avec Aurore Berger au gouvernement. Elle va relancer son plan de lutte contre l'antisémitisme et j'espère, comme l'a dit Jonathan Arfi, le président du CRIF, que ce sera une des grandes causes nationales de l'année 2025.
François Elbron, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes professeur associé à Sciences Po. Merci et bonsoir.
Bonsoir Pierre.